En antenne dans 15 secondes. Attention, 10 secondes.
On allume la 3, la 12 secondes.
Et 5, 4, 3, 2, 1.
Radio Kawa présente TVNR.
L'actu média, toutes les deux semaines.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 117e numéro de TVNR, le podcast de Radio Kawa qui brutalise l'actualité des médias toutes les deux semaines. Et en ce beau lundi de Pâques à la recherche des œufs, nous avons avec nous Joachim.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs pour ce week-end pascal, puisqu'en effet, pour une fois, vous allez pouvoir écouter le podcast en un jour férié. C'est pas magnifique. Si c'est pas magnifique, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour vous.
Ça fait encore plus de temps pour nous écouter, nous réécouter, etc. Donc voilà, merci beaucoup encore à toutes et à tous de nous écouter. Et tout de suite, on va passer au suivi de ce 117e numéro. Le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actualité déjà évoqués lors de précédents épisodes. Et là, c'est un nouveau rebondissement dans une saga que nous suivons depuis plus d'un an maintenant, deux.
C'est plus la saga de l'été, là, niveau, c'est demain nous appartient quand même.
Ah, c'est terrible.
On est passé au niveau dessus.
Chaque jour, son nouveau développement, c'est absolument fou. Donc, on parlait bien évidemment du média, puisque, comme d'habitude, hein, juste après un nouveau numéro de TVNR, il y a encore eu un grand changement. Donc, le 9 avril, Aude Lancelin, la directrice du média, a décidé de démissionner. Elle a annoncé ça par voie de communiqué sur les réseaux sociaux. Elle dénonçait un putsch de plusieurs personnes n'appartenant pas à notre équipe et dont, à une exception près, aucun des journalistes, là j'ai cité Aude Lancelin. Donc selon elle, il y a beaucoup ce qu'elle appelle des anciens associés de Sophia Chikirou, souvenez-vous, celle qui était auparavant directrice du média.
Il faut rappeler, actuellement, il y a donc deux courants, à peu près comme un vrai parti politique, il y a vraiment deux courants aux médias. Les chikiristes qui soutiennent encore la Sophia Chikirou, et donc qui était l'ancienne dans la tête, et les ancelinistes qui soutiennent plus la tête d'Aude Lancelin, donc c'est le bordel.
Oui, voilà, il y a toujours eu un peu cette dissension entre les deux parties. Donc Sophia Chikirou avait quitté le média, pas en bon terme, puisqu'elle avait réclamé énormément d'argent au média, je crois que c'était 200 000 euros, si je me souviens bien.
Quelque chose comme ça, oui.
Donc voilà, mais elle n'est plus, en tout cas, au média actuellement, mais visiblement, selon Aude Lancelin, il y a toujours des anciens associés de Sophia Chikirou qui sont toujours au sein de l'association et qui ont donc comploté pour l'évincer. Et ces personnes seraient contre l'orientation pro-gilets jaunes du média, parce que clairement, depuis le début du mouvement des gilets jaunes, le média s'est fait... a clairement décidé de se mettre en avant pour les gilets jaunes, en dénonçant notamment les violences policières, en dénonçant la politique du gouvernement, etc. Bon, après, vu sa
avec
position...
Avec succès, ça a marché plutôt bien.
Oui, ça a vraiment relancé le média, alors qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal et qu'ils avaient lancé une campagne de financement participatif il y a maintenant 6 mois.
À la fin de la saison. Hein.
Voilà. Donc, je vous invite à écouter les anciens numéros de TVNR pour revenir sur tous ces éléments-là. Donc voilà, il y a toujours ces distensions. Aude Lancelin vise notamment Gérard Miller, l'un des anciens fondateurs du média, qui a depuis lors aussi quitté le bureau de l'association, et lui justement pris position publiquement en disant « Non, je n'ai plus rien à voir là-dedans. » Donc voilà, je ne
Poutez-moi
suis plus du tout là dans ces problèmes. Dans les arts occultifs, il y a un membre du personnel qui affirme que ce sont plutôt d'anciens salariés qui sont récemment partis, qui ont décidé de dénoncer le modèle de gouvernance du média, qui témoigne aussi de tensions sur la rédaction, une surcharge de travail et l'impossibilité de contester la ligne éditoriale. Donc là, on rejoint un peu cette ligne pro-gilet jaune. Est-ce que c'est plutôt cette ligne-là qui est contestée ou plutôt le global? Il y a aussi un journaliste qui a répondu sur Twitter, Théophile Kouamouo, qui est vu comme l'un des conspirateurs par Aude Lancelin, qui a répondu sur Twitter: si Aude Lancelin démissionne parce qu'elle veut choisir toute seule et exclure toute seule, c'est parce que vous, donc vous le public et les lecteurs du média, vous le permettez, vous la starifiez, vous refusez de voir que le pouvoir absolu corrompt absolument même les plus vertueux. On sent
voilà,
la bonne ambiance.
On en est là, on en est là quand même. Pour dire ça, c'est que bon, généralement, les Et les relations ne sont plus cordiales pour en arriver à ce genre de propos.
J'ai pris juste cette phrase-là, mais c'est tout un trait qu'il a publié quelques heures seulement après le communiqué d'Aude Lancelin. J'imagine mal l'ambiance au sein de la rédaction quand on en arrive à ce genre de tweet. Le média, au niveau officiel, a essayé un peu de calmer les choses avec un communiqué justement aussi le 9 avril, demandant à ce qu'il y ait une conciliation et qu'il faut trouver une solution autour de ces problèmes de personnes et de vision. Normalement, il devait y avoir une réunion le 16 avril, mais il n'y a rien qui est vraiment ressorti, du moins de ce qu'on a pu lire en public. Et Aude Lancelin, elle, a confirmé de toute façon qu'elle ne reviendra pas et que voilà, sa démission est acquise. Tant pis
c'est
pour la suite.
Plus qu'une émission, c'était pas une histoire qu'elle a été complètement débarquée parce que justement il y avait un système un peu de qui permettait à tous les membres du média de pouvoir convoquer une espèce d'assemblée générale et de demander la tête de quelqu'un qui était eux-mêmes voulu à la base en interne et sur lequel Aude Lancelin a un peu ironisé au final lors de son départ.
Mais en fait, normalement, il devait y avoir le 9 avril, justement ce jour-là, il devait y avoir une réunion du bureau du média et qui visiblement devait justement décider de l'avenir de la direction. Puis Aude Lancelin a un peu devancé cette réunion en lançant son communiqué, et la réunion du coup avait été retardée au 16 avril. Ah. Mais donc, visiblement, c'est plus elle qui a décidé de devancer vraiment les personnes qui souhaitaient son départ. Et donc, en sortant cela, mais je crois que c'est une tendance de toute façon depuis le début de ce média, on va dire,
oui.
De ces gens qui veulent absolument. Est-ce que c'est de la transparence ou non, mais qui veulent mettre cela sur la place publique avant tout. Ça a été le cas avec Sofia Chikirou, ça continue avec Aude Lancelin maintenant. C'est à chaque fin de saison, hop, on remet cela, ces dissensions entre les journalistes et entre l'équipe qui gère le média. Voilà, je ne sais pas si c'est forcément la bonne méthode pour que la rédaction reste sereine.
Non, je ne pense pas non plus, clairement, mais ça, après, c'est un peu plus compliqué à mettre en place.
En tout cas, pour le moment, le média, de ce qu'on a pu voir, continue ses reportages, continue ses vidéos, etc., continue ses interviews. Donc, voilà, la rédaction continue son travail. Maintenant, on va voir ce qu'il en sera pour s'il y aura un nouveau directeur ou une nouvelle directrice à l'avenir. Mais voilà, c'est encore, encore une tuile pour le média qu'on suivra de toute manière dans les prochaines émissions, parce que j'imagine qu'il y aura de nouveaux rebondissements.
Très vite, oui.
Une autre marotte de TVNR, c'est Vincent Bolloré, et oui, qui est toujours là quand on ne l'attend pas. Qui ici vient d'être de nouveau débouté pour toutes ses actions en justice contre France Télévisions. Donc il vient d'être débouté en cour d'appel de Versailles pour sa demande d'indemnisation réclamée à France Télévisions. Vous vous souvenez certainement de ce grand reportage complément d'enquête. Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, un reportage qui avait reçu le prix Albert Londres en 2016 et qui est toujours visible sur YouTube. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Donc complément d'enquête. Vincent Bolloré avait réclamé 50 millions d'euros, rien que ça. Il avait déjà été débouté une première fois. Puis, en appel, il avait demandé 150 000 euros pour préjudice d'image à France 2 et Tristan Walex, donc à l'origine du reportage. Et finalement, il ne recevra rien du tout. Il devra même payer les frais de justice.
Pour décision abusive, oui.
Ce qui semble assez logique, hein, vu qu'il il se lance à corps perdu dans ce genre d'action en justice dès qu'il y a un reportage, dès qu'il y a
dossier. Quelque chose qui est un peu contre sa ligne éditoriale et qui montre un peu à quel point le personnage n'est pas forcément des plus sympathiques.
Voilà, il y avait eu encore justement une lettre ouverte il y a quelques mois de plusieurs rédactions justement pour dénoncer toutes ces procédures abusives contre la liberté de la presse. Malgré tout, ce n'est pas terminé parce qu'il a décidé d'aller en cassation. Bon, après, je pense que la procédure, c'est la dernière possibilité, mais je pense pas que la procédure ira très très loin vu qu'il a déjà été débouté deux fois. Donc, comme je disais, c'est un spécialiste des procédures abusives. Il avait justement récemment été condamné par la Cour d'appel de Paris pour procédure abusive contre France Télévisions. Donc voilà, je pense qu'en cassation ça passera pas plus. Malheureusement pour Tristan Valex et France Télévisions, il y a encore une troisième procédure qui est en cours, cette fois au Cameroun, où donc justement le reportage avait été tourné. Je ne sais pas quelle est vraiment la différence par rapport à la justice française, c'est-à-dire que tout ce qui est au niveau des tribunaux français, on se doute que ça va plus ou moins suivre le même cours. Au Cameroun, je ne sais pas du tout comment ils vont traiter ce dossier. Une autre information sur le fameux Vincent Bolloré, qui est toujours dans l'actualité média malgré ses départs. Il avait décidé de quitter le conseil de surveillance de Vivendi. Il avait annoncé ça l'an dernier pour faire notamment place à ses enfants. Donc Sophie Sianik est maintenant président du conseil de surveillance, alors que Cyril est également membre de ce conseil. Et Vincent Bolloré, lui, a décidé de se faire une petite place à côté. Il est désormais censeur et, attention, conseiller du président du directeur de Vivendi. Donc il est tout simplement conseiller auprès de ses enfants. Je trouve ça quand même assez fascinant, alors qu'il avait dit « non, je fais un pas de côté ».
Oui, ça fait très messier au final, c'est ça qui est un peu incroyable.
Et je sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle pour Vivendi, vu ses dernières acquisitions et tentatives d'acquisition dans le monde des médias.
Pas spécialement, non, mais... Après, malheureusement, c'est tout... quoi qu'il en soit, ce sera toujours Bolloré qui fera un peu les choix, comme ça s'est vu précédemment sur d'autres médias, comme par exemple, c'est un peu toujours Bolloré qui aide Cyril Hanouna à être le grand patron en chef du bazar de C8.
On va en reparler justement de l'actualité.
On va en reparler du gros barnum, mais voilà, c'est Bolloré qui est un peu le patron, et même s'il veut essayer de faire plaisir au marché en disant qu'il essaie de se retirer un peu, qu'il donne un peu plus de contrôle à d'autres de ses pions, entre guillemets, il restera le maître mot de tout son empire tant qu'il n'aura pas fini d'ici quelques années à véritablement passer la main.
Et ça, je pense que ça va encore prendre quelques années, en effet.
Bah, il a décidé la dette, c'est toujours cette fameuse histoire. Il a un compte à rebours sur son téléphone qui indique le jour où il a prévu de passer la main à son unique pour l'intégralité de son empire.
On suivra ça de toute manière. On va passer tout de suite après une petite pause à l'actualité.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.
C'est parti pour l'actualité de ce 117e numéro de TVNR, et on va parler un peu de radio, puisque jeudi il y avait les audiences et la nouvelle vague de radio, avec la grosse chute de RTL, qui a perdu quand même 1,4% de part d'audience en un an, et qui du coup se fait shipper la première place par France Inter. C'est une première pour une radio généraliste. Il y avait déjà NRJ qui était déjà passé devant RTL dans les années 2000 et début 2010. Il y a eu quelques vagues comme ça où NRJ était en tête. Cette fois, bon, bah, RTL se fait passer par France Inter, une concurrente directe, ce qui doit quand même faire un peu mal du côté de la chaîne historique.
Ah bah, RTL l'a dit tout de suite, là, ils sont véritablement prêts à faire du changement sur la grille, ce qui n'est pas arrivé depuis une éternité, RTL, hein, parce que ça a toujours été vraiment la matinale, puis Courbet, puis le midi, avec parfois un jeu, mais ça a été assez rare, puis là, l'après-midi qui a été toujours assez classique, puis les grosses têtes, puis le bloc RTL soir, et à la fin, Georges Angle. Ça, c'est vraiment la grille d'RTL depuis, vous pouvez revenir en arrière, c'est la grille d'RTL depuis 20 ans, grosso modo. Donc, pour qu'ils en soient là, à ce point-là, et dire qu'il y a eu du changement, ils veulent vraiment faire des trucs, à mon avis.
Mais surtout, c'est la matinée hein, qui pâtit vraiment au niveau des audiences, avec Yves Calvi notamment qui baisse beaucoup.
Et Yves Calvi qui a pris un gros gadin le matin à la matinale et qui est apparemment, d'après les rumeurs internes, qui pourrait être sur la sellette pour partir en fin de saison.
Ce qui est toujours après sa décision de partir de France 5 pour Canal+, là, du coup, chez RTL, ça commence à...
Yves Calvi, vraiment les meilleurs choix de l'année. Hein. Demandez-lui un truc, faites le contraire.
et aussi, j'avais vu l'émission de Stéphane Bern qui était aussi en baisse.
C'est toujours pareil. Le concept de Berne aussi, c'est le même concept qu'il a fait depuis 30 ans, enfin pas 30 ans, mais presque.
Quand il était chez France Inter.
Le fou du roi d'Inter, c'est là, à la bonne heure, c'est juste le fou du roi en rebrandé, en un peu plus calme. Et ça commence à faire un peu vieux, hein, au final. Mm-hmm. C'est même plus sympa, même si Nagi n'est pas forcément spécialement bien plus original dans sa bande originale.
Ah non, c'est quasiment la même chose.
C'est quasiment la même mission d'accueil avec des invités et des chroniqueurs humoristiques, mais au moins, t'as quand même plus l'impression que c'est un truc qui est moins vieillot que son à la bonne heure.
Mm-hmm.
Ce qui n'est pas très compliqué.
En effet. Sur le podium, donc, on a toujours Energy qui est en troisième position devant France Info, qui a fait aussi une belle remontée.
Tu es dans, forcément.
C'est clair qu'avec tout ce qu'il y a eu au niveau des Gilets jaunes et tout, c'est logique que France Info remonte. Par contre, au global, le Média Radio perd quand même 800 000 auditeurs sur un an, qui confirme quand même que la radio n'est plus un média d'avenir, du moins la radio en continu. J'ai du mal à voir
C'est toujours le problème de la méthode de calcul de médiamétrie.
Mm-hmm.
Qui est toujours faite, alors pour rappel, médiamétrie appelle des personnes au hasard pour faire un sondage et leur demande de façon extrêmement précise, de façon très débile d'ailleurs, quand est-ce que vous avez écouté telle radio, est-ce que vous l'avez écouté, dans quel quart d'heure, quel jour de la journée. Ce qui est déjà quand même assez compliqué parce qu'il faut faire tout sa mémoire, c'est très facile de mentir sur le sujet. Ou de se tromper.
Mmh.
Et de plus en plus, ces personnes ne pensent pas forcément à écouter la radio, mais écoutent la radio par des moyens en différé, par du podcast, et c'est pas forcément des choses qui peuvent être intégrées directement dans les comptes de médiamétrie, ou qui sont pas forcément reportées par les personnes qui font ces écoutes-là, qui répondent aux études de médiamétrie pour donner leurs habitudes d'écoute. Je pense que le média radio ne perd au final peut-être pas tant de monde que ça, mais c'est deux, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est vraiment le sondage radio-médiamétrie qui devient de plus en plus obsolète aussi au passage. Mm-hmm.
Oui, parce que je pense quand même qu'il y a des... On le voit de toute façon dans les audiences podcast, et quand je parle de podcast, je pense plus podcast rattrapage.
Oui, là, podcast radio en différé. Hein,
voilà, qui augmente de plus en plus, et je pense qu'en effet, il y a des habitudes qui changent aussi.
Voilà.
Avec des gens qui écoutent plutôt en podcast plutôt que d'être devant la radio entre midi et 13h, j'invente une heure. Voilà. En tout cas, moi de mon côté, j'ai beaucoup plus de mal à me mettre devant la radio à une certaine heure pour écouter une certaine émission.
Et le développement extrêmement tardif de la radio numérique terrestre n'aidant pas non plus.
Clairement. Dans ces audiences radio, la grosse chute, ça vient à nouveau de Europe 1. On s'en doutait un petit peu, malheureusement. Donc, il se retrouve désormais talonné par Nostalgie. 478 000 auditeurs en moins sur un an. C'est son plus bas niveau historique sur toutes les tranches. C'est vraiment
le rock-can. On arrive vraiment à un niveau de crise. Bon, pas forcément en tant que tel, mais... C'est presque le RMC des années 90 qui s'est mis à plonger pour arriver dans les abysses, littéralement.
Mm-hmm.
Donc, va falloir finir par vendre vite avant que ce soit trop tard, avant que ce soit vendu à la découpe, pour un investisseur qui pourrait être encore intéressé, et peut-être faire enfin des coupes, comme par exemple, on n'en avait pas aussi parlé, le mirobolant salaire de Canteloup, qui touche 150 000 euros chaque mois pour faire ses chroniques à la matinale.
Mm-hmm.
Il fait grincer de plus en plus dedans en interne parce que déjà les coupes budgétaires commencent à être visibles aussi, ça commence à devenir assez typo, les intervenants sont moins bien traités et payés. Forcément, quand on apprend que quelqu'un a un contrat en or à la matinale pour faire quelque chose qui n'est peut-être pas forcément aussi brillant qu'il a été pendant il y a 10 ans de ça, ça devient de plus en plus gênant. La matinale est en question aussi, évidemment, parce que Nikos ne fait pas forcément de score très brillant.
Oui, c'est ça, ça ne progresse pas forcément.
Non.
Donc, il va falloir peut-être encore remanier à nouveau cette guérille.
La grosse rumeur qui est en train d'enfler actuellement, c'est que, la combat l'a dit que ce serait sa dernière saison sur Virgin, et ça sera sûrement vraiment sa dernière saison. Mais... il y aurait une grosse rumeur qui l'annoncerait arriver à la rentrée prochaine sur une généraliste.
Ce serait surprenant. Enfin,
donc,
vu son style.
C'est clairement, il n'est pas très Europe 1 compatible, mais c'est la passerelle la plus facile. Forcément, ça reste le groupe Lagardère. Mm-hmm. On pourrait faire un gros bond d'or comme il avait été fait pour Hanouna à l'époque, pour essayer de sauver l'après-midi déjà.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que l'après-midi, je pense que ce serait déjà beaucoup plus combattible un peu, parce que là, actuellement, ce qu'il fait maintenant avec tous ces divers emplois du temps, avec qui gagne des millions, avec Danse avec les stars, avec les nouvelles émissions d'Europe 1, enfin de TF1, pardon, lapsus. Mm-hmm. Une matinale, ça devient de plus en plus compliqué pour lui, je pense. Donc, si ça peut passer à quelque chose dans un horaire un peu plus adapté et sur une chaîne qui reste encore avec un certain prestige, pourra pas dire, et je pense qu'il va pas forcément dire non, surtout que Europe 1 va vouloir aligner un peu l'argent dans ce cas-là.
Après, mais... ça peut aller en matinale, mais alors tu changes totalement
non,
de cap.
Non, il ira pas, voilà. Pour moi, il ira pas en matinale.
Ils ont tenté Mathieu Noël pour les petits matins, par exemple.
Ouais, mais oui, donc, voilà, mais non. Le combat, là, tu vas pas l'envoyer sur le 5-7.
Oui, non.
Un peu con. Et puis voilà, tu peux pas l'envoyer sur RTL. Combat, là, tu peux pas l'envoyer sur RTL maintenant que c'est vraiment devenu le vaisseau amiral d'M6. Possible, ça colle pas, donc à part Europe, où est-ce que tu veux l'emmener?
Non, en effet,
pas d'autre solution, mais ça reste à prolong, c'est vraiment qu'une rumeur, il n'y a rien d'officiel, même si apparemment ça devient de plus en plus listé dans les rumeurs internes d'Europe.
De toute façon, des changements, je pense qu'il va y en avoir.
Comme tous les 6 mois.
Comme tous les 6 mois, malheureusement, là. Chez Europe 1. vu que là, avec cette nouvelle vague d'audience vraiment très mauvaise, les salariés de la station ont décidé de voter une motion de défiance à l'encontre d'Arnaud Lagardère, donc justement l'actionnaire principal de la radio. Ils dénoncent l'absence criante de stratégie du groupe Lagardère depuis de trop nombreuses années. Ah bon ?
Oui, bon, ben, ça, c'est pas très sûr. Oui, voilà, je comprends pas. Je comprends pas.
Et ils parlent également de la persistance d'importantes poches de précarité. Donc ça, notamment ce qu'on parlait du salaire mirobolant de Nicolas Canteloup.
Ouais, c'est le salaire des intermittents qui travaillent pour le restant de la journée.
Mm-hmm. Il y a un article de Mediapart donc, qui est sorti justement à ce sujet-là. Et qui évoque donc les gros problèmes pour les salariés d'Europe 1 et ceux les indépendants, les pigistes, etc. Donc la rédaction numérique d'Europe 1 avait déjà fait grève justement en raison d'une réorganisation et de licenciements annoncés dans la cellule. Et donc on voit que rien qu'au niveau de la station, ça commence évidemment à avoir des effets néfastes, cette dégringolade des audiences. Arnaud Lagardère, lui, a annoncé qui devrait prendre la parole dans les prochains jours. Maintenant, les prochains jours, c'est assez vaste, il n'y a pas de date annoncée. Mais dans le Canard enchaîné, on apprend que le groupe envisage déjà de virer Laurent Guimier, grand ancien de la station, qui est arrivé comme directeur il y a un an seulement.
Pour faire le sauveur un peu, comme d'autres avant lui.
Et même en ayant la patte Europe 1, ça n'a pas suffi, et visiblement, il est de nouveau sur la sellette, ici. Bon, je sais pas si forcément encore un nouveau directeur, ça va encore forcément changer les choses.
Ah, va bien falloir quelqu'un pour le remplacer, de toute façon.
Oui, clairement, et trouver un nouveau cap, c'est comme tu parlais de RMC, la dégringolade à l'époque, est-ce que Europe 1 devrait pas changer totalement de cap et enlever, balayer un peu son
format
historique
cadre et faire, le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux faire comme format pour Europe ? Si tu la passes en hard talk news, ça va être très compliqué, parce que vraiment, RMC est devenu largement leader sur le sujet. Mm-hmm. Et à moins que ce rapprochement, parce qu'il y avait quand même deux occasions, soit un rapprochement avec CNews Canal, soit un rapprochement avec TF1. Si jamais c'est un rapprochement avec CNews Canal qui va se faire, c'est sûr que le format hard news vraiment talk se fera beaucoup plus facilement.
Mm-hmm.
Même s'il y aura quand même la grosse concurrence d'RMC après. Après, qu'est-ce que tu veux faire comme autre format très généraliste ? Oui, ou alors il faut vraiment totalement changer la cible d'Europe, de vraiment virer le côté cadre et faire vraiment une plus généraliste. Vraiment plus, vraiment beaucoup plus familial, grand angle, tout ça, mais tu risques de encore plus vieillir ton auditoire.
C'est ça le problème.
Ce qui n'est pas forcément très pertinent dans un contexte déjà assez compliqué au niveau des publicités pour le monde de la radio et pour Europe 1 actuellement.
Mm-hmm.
Donc,
il n'y a pas beaucoup de solutions.
Pas beaucoup de solutions, oui.
Malheureusement pour Europe 1. Donc voilà, on va suivre de toute façon la prochaine conférence de presse d'Arnaud Lagardère.
Vu les tensions en interne.
Oui, ça risque d'être un peu explosif ces prochains jours du côté d'Europe 1. On va passer tout de suite à Cyril Hanouna. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, je trouve. qui s'est fait remarquer à plusieurs reprises sur ces deux dernières semaines. Encore une fois, on sent que c'est la fin de saison, il est temps de ressortir un peu le buzz et le clic.
Le buzz.
On a eu droit donc le 6 avril dernier à un article du Parisien, sur le site du Parisien, qui annonçait qui faisait réagir des employés de C8 au fait que Cyril Hanouna allait arriver justement dans leurs locaux.
Pour revenir dans les locaux.
Plutôt revenir, c'est... voilà. Parce que là, pour le moment, ils sont...
Canal Factory, donc les anciens studios de Boulogne qui ont accueilli pendant quelques années encore les studios du Grand Journal, qui accueillent toujours les studios du Canal Football Club. Mm-hmm. Et voilà, le studio du Grand Journal qui a été recyclé en grand studio pour Hanouna ces dernières années.
Ça, donc, on l'avait déjà évoqué justement dans les émissions précédentes, du fait que Cyril Hanouna voulait visiblement un plateau un peu plus petit, et que donc, voilà, il l'a annoncé clairement dans TPMP qu'ils allaient revenir dans les locaux de C8. Donc
c'était une source de pouvoir refaire du running gag avec la direction et de pouvoir refacilement dire bonjour à la tour TF1 qui est juste à côté.
On attend ça avec impatience.
Non.
Donc, le Parisien a fait un article avec des sources internes d'employés qui exprimaient un peu leur désarroi face à ce retour et qui craignaient un peu le retour de Cyril Hanouna.
Voilà, là, on tourne à la tarte à la crème.
L'article devait normalement être publié dans le journal le dimanche, mais celui-ci n'est jamais paru dans le papier. Il est resté simplement sur le site.
En étant mal référencé, au passage.
Oui, voilà. Il est un peu caché, même si... le lien a vite tourné sur les réseaux sociaux. Et donc, selon l'intersyndical du Parisien, cet article n'est pas paru dans le journal à cause d'une intervention de Cyril Hanouna auprès de la rédactrice en chef adjointe du service spectacle loisirs de la rédaction. Alors, le Parisien a défendu cette rédactrice en chef adjointe, affirmant que l'article n'était pas bon. Oui, non. Franchement, pour l'avoir lu, oui, éventuellement, si on considère que les sources ne sont pas fiables, mais sinon, l'article était très bien. Et que donc, le Parisien affirmait qu'il n'y avait pas du tout de censure là-dedans. Le Pur Média a justement profité de l'affaire pour rappeler que Cyril Hanouna s'est souvent attaqué aux journalistes et a longtemps interdit à son équipe de parler à Pur Média ou à d'autres quotidiens par le passé. Donc, voilà. Le pouvoir
aussi, au passage, bizarrement, une certaine cérémonie des Globes de Cristal, qui est quand même co-présentée par Le Parisien, était produite par une petite boîte de production du nom de H2O de l'année dernière, et donc on pourrait penser qu'étrangement, il y a eu un peu d'interventionnisme pour éviter de fâcher un éventuel producteur, ou plutôt un éventuel partenaire commercial, qui pourrait les lâcher la saison suivante.
Mmh. Et pour une fois, Cyril Hanouna n'en a pas fait beaucoup écho dans son émission.
Non, c'est resté... il a pas cherché à se défendre ou d'essayer de faire un peu le faux cul comme il a pu le faire il y a deux jours avec « Oh là là, j'ai défendu, je vais défendre quotidien parce que voilà, on s'en fout, c'est des amis, c'est les ennemis, c'est personne, mais ils étaient pas en direct, donc ils ont pas pu réagir sur Notre-Dame. Oh là là. »
Oui, ça aussi.
La vidéo était vraiment dégueulasse à voir parce que tu sens très bien qu'il a briefé toutes les chroniqueurs en entour pour vraiment faire les faux culs et m'en dire, hein, quoi? Oh, bah, je savais pas que Quotidien n'était pas en direct. Ça va être une émission média depuis 6-7 ans. Je pense que vous le savez quand même, hein. Mais bon, à part ça, c'était un peu joli à voir. Mais ouais, quand il veut réagir ou faire pipoter le truc dans son émission, il le fait, en effet.
Et il l'a fait justement mercredi dernier, juste quelques heures après que le magazine GQ ait annoncé sur son site internet l'arrivée donc de David Doucet, ancien rédacteur en chef web d'Azinrock. Si son nom ne vous dit peut-être rien, c'était un des membres éminents de la Ligue du LOL, donc ce groupe de cyberharceleurs.
De la Ligue de LOL, clairement.
De ce groupe de cyberharceleurs qui avait fait des méfaits sur Twitter dans les débuts des années 2010. Donc on en avait parlé justement il y a un mois dans TVNR. Donc on pensait que ce genre de personnage allait rester un peu dans l'ombre durant plus longtemps que cela, mais visiblement, donc David Doucet pourrait revenir à la rédaction de TPMP. Cyril Hanouna lui en a directement parlé le soir même en disant que c'était des couilles, que David Doucet l'avait simplement appelé et qu'il est juste en observation pour 2 jours, voilà, qu'il n'a pas de CDI.
A priori, c'est quelqu'un d'autre à la rédaction en chef, j'ai plus le nom en tête pendant 4 jours et qu'il est en observation, mais bon... Quelqu'un comme ça, c'est tu le mets pas en observation, c'est un peu mytho. C'est comme tu disais,
c'est pas un stagiaire quoi.
Là, c'est pas un stagiaire de 3e, c'est pas ton fils que t'as mis un stagiaire de 3e là, c'est moyen comme argument.
Non, clairement. Et surtout, moi, ce qui m'a fait le plus bondir, c'est quand il a expliqué que David Doucet ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucune accusation. Alors, certes, sur sur le plan judiciaire, en effet, il n'y a pas forcément de poursuite actuellement, mais les montages, les insultes, les harcèlements, etc., qu'il a mené au début des années 2000 sur Twitter, ça, il n'y a pas de souci.
Les témoignages, clairement, il ne manque pas, malheureusement.
Voilà, et le fait que les Inrocks aient finalement licencié David Doucet pour faute grave, veut quand même dire qu'il y avait un certain problème, et que ça vienne de la Ligue du LOL ou non, il y a quand même eu un certain problème avec lui à l'époque, donc voilà.
Et bon, malheureusement, encore une fois, TPMP, enfin plutôt Hanouna, justifie un peu le harcèlement comme il a pu le faire plus d'une fois dans ses émissions.
Malheureusement, en effet. On va passer tout de suite à un autre grand rendez-vous annoncé, c'est le service SVOD de Disney, Disney+, qui a été annoncé en grande pompe voici une semaine. C'était quand même une annonce attendue depuis longtemps, depuis l'annonce du rachat de la Fox par Disney. On se demandait quel allait être finalement ce service proposé avec les deux géants du divertissement. Donc le catalogue sera quand même assez important, donc avec les créations de Disney, les créations de Pixar, de Marvel, National Geographic, de Fox, tout ce qui est Star Wars, etc. On va avoir justement des séries et des documentaires inédits autour de l'univers Marvel, des séries live et animées sur Star Wars. On annonce un documentaire sur les coulisses de Pixar, des films live Disney, donc ça suit un peu la tendance qu'on a déjà eue actuellement,
cinéma, oui.
Même si c'est au cinéma, mais là visiblement il va en avoir d'autres qui vont être faits, notamment...
De faire du film niveau direct ou DVD directement pour son service SVOD, c'est
voilà, facile. Voilà, autant en profiter. J'ai vu qu'il y avait notamment La Belle et le Clochard qui allait être en version live maintenant. Écoute, après Le Roi Lion, autant continuer à faire des animaux en 3D, c'est tellement plus mignon.
Vivement les Aristochats.
Mais attends, je pense que ça peut arriver bientôt.
Très vite.
Donc ce catalogue va arriver le 12 novembre aux États-Unis et normalement au printemps 2020 en Europe, même si pour le moment il n'y a aucune date qui a été annoncée, c'est plus de l'ordre de la rumeur, ce qui en est.
C'est vrai qu'ils ont vraiment fait l'annonce, ils ont été vraiment très États-Unis centrés pour l'annonce. Mm-hmm. Ce qui est assez curieux parce qu'au final... Le lancement du service était attendu de façon assez mondiale et ils ont fait beaucoup de teasing à ce sujet. Ça commençait, les contenus commençaient à disparaître progressivement de Netflix. Tout le monde se disait, ça doit arriver d'ici un jour ou l'autre. Et ils n'ont fait vraiment une annonce que sur un point de vue des États-Unis. Bon, pour la France, ce sera pas très surprenant parce que vu le contenu qui est annoncé, enfin déjà le peu de contenu, je vais revenir dans 30 secondes, le contenu qui va être annoncé, ça risque d'être un peu compliqué d'un point de vue chronologie des médias.
Aussi, toujours, ce problème de la loi.
Pour le reste de l'Europe, par contre, c'est un peu plus curieux qu'ils n'aient pas cherché à annoncer au moins un service minimum à un prix d'appel, parce qu'ils ne pourraient pas forcément tout mettre dès le départ. Mais les gens seraient sûrement ravis de balancer quelques dollars, pour au moins avoir un service limité avec du contenu Disney neuf qui pourrait être mis sur le service. Puis tu pourrais éventuellement compléter ça avec des séries ABC ou d'autres contenus télé qui seraient assez faciles à aller chercher dans le reste du catalogue Disney Fox maintenant qu'il est arrivé.
J'imagine que c'est toujours des problèmes de droits, parce que les films Marvel, certains dessins animés Disney, Pixar, etc.,
sont déjà
en SVOD pour le moment sur certains services, pas tout.
Les droits sont très, vraiment, parce que ça va vraiment exploser un peu partout, donc ça va être un effet assez compliqué.
Parce que c'est un peu ce qui s'était passé notamment avec les débuts de Netflix ici en France, en Belgique, où le catalogue n'était pas très fou au début.
Non.
Et puis finalement, c'est au fur et à mesure qu'il s'est développé. Donc c'est vrai que je m'attendais au moins à un service, comme tu dis, minimum pour l'Europe. Bah voilà, j'imagine que ça va de toute façon être annoncé au fur et à mesure.
Vous avez pu un peu éclaircir tout ça.
Le prix pour le moment aux États-Unis, c'est $6.99 pardon, par mois, ou $69.90 par an. Donc, ce qui reste moins cher que Netflix, vu que Netflix, on est autour de $10 par mois si on veut au moins la HD et deux écrans.
Même un peu plus, je pense que c'est encore un peu augmenté. Là.
Ça a augmenté autour de
11? Oui, je crois, c'est autour de 11-12 maintenant.
Donc le prix, clairement, c'est un appel pour les gens. Venez.
Mais c'est pas vendeur pour l'instant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, ça me semble sonner un peu creux.
Mm-hmm.
Je m'attendais vraiment à un gros blockbuster qui arrive. Là, on me dit, on a pris quelques trucs qui traînaient dans les cartons. On va vous faire quelques séries Marvel parce qu'on a tout accès les droits à Netflix, il pourra plus les faire.
Mm-hmm.
Et puis c'est tout.
C'est vrai que je m'attendais aussi peut-être à de grosses annonces long métrage ou autres pour justement lancer
une grosse série Star Wars, un gros du vrai blockbuster, les annonces peut-être pour dire regardez le catalogue Disney qu'on vous casse les couilles tous les 5 ans à le sortir à moitié en DVD, vous l'aurez enfin sur notre service. Ça aurait été des annonces spectaculaires, apparemment ça semble toujours pas être le cas.
Parce que même chose pour par exemple les Simpsons, j'ai pas l'impression qu'ils ont annoncé, j'ai lu.
Je pense que c'est peut-être un peu ça c'est compliqué parce que la fusion Fox est toute fraîche, ça finira par arriver, ils ont peut-être pas encore bien stabilisé le truc. Ça oui, l'annonce de tous les Simpsons dans SVOD, ce serait quelque chose d'assez lourd.
Clairement, c'est clairement quelque chose qui peut faire vendre des abonnements
même
à l'appel.
Même si
quoi.
Disney pourrait se limiter aux 10 premières saisons, parce qu'après, ce serait juste des octets qui traîneraient dans l'Internet.
Ah bah oui. Non mais clairement, enfin, en tout cas, moi, c'est par exemple quelque chose qui pourrait me faire dire « Ah tiens, ça peut être intéressant. » Même
après,
si j'ai déjà vu 50 fois.
Même si en Europe, ce service existe, enfin en France, ce service existe déjà, ça s'appelle W9 Replay.
Oui, vous avez encore cette chance là, il est vrai en France. En Belgique, on n'a même plus RTL qui avant diffusait les Simpsons, on avait droit à un épisode tous les jours à 19h40, donc c'est comme ça que les Simpsons est devenu vraiment culte chez nous. Et c'était quand j'étais enfant, c'était toujours avant d'aller dormir l'épisode des Simpsons. Maintenant, il n'y a même plus ça et il est même pas disponible en VOD. Ce qui est assez surprenant, donc RTL a vraiment délaissé tous les droits des Simpsons en Belgique, et il n'y a plus personne qui diffuse, du moins en Belgique francophone. Donc c'est pour ça que j'attends avec impatience que un service récupère les dernières saisons des Simpsons en Belgique. Mais bon, ça je sais pas quand ça pourra arriver, et Disney+, visiblement, c'est pas encore prêt d'arriver, parce que printemps 2020, ça fait quand même encore un an, au moins, à patienter. Mais voilà, donc, pour le moment, notre analyse, c'est vrai que c'est pas encore très fou, on va voir ce que ça donnera.
Mais parce que c'est quand même le gros problème de tous ces services de SVOD qui arrivent les uns après les autres pour essayer de prendre leur part du gâteau, c'est bien d'arriver, mais il faut quand même avoir des gros arguments pour pouvoir dire aux gens abonnez-vous. Là, pour l'instant, c'est pas le cas.
Oui, parce que ça fait, si on commence à acheter tous les abonnements, ça commence un peu à chiffrer. Hein.
Les experts estiment que d'ici quelques années, on dépensera facile $70-80 en services d'abonnement divers et variés, et pas forcément de la SVOD.
Donc peut-être, oui. On arrivera à cela.
Faut quand même qu'il y ait vraiment le fait qui te pousse à aller ces services-là et à faire sortir ta carte bancaire, autrement que pour l'instant j'ai Netflix qui me fait très bien tout mon contenu que je veux, sur tout ce que je veux et même sur tout ce que je ne veux pas.
On en reparlera, je pense. On va passer justement, là c'est pas de la SVOD, c'est plutôt du YouTube Game. C'est Guillaume Play qui revient sur YouTube, alors pour une émission télé. Enfin, parce que c'est clairement une émission télé, mais qui a été publiée sur YouTube avec Jimmy Labeu. Ça s'appelle Le QG, et j'ai été surpris de voir cette chose arriver comme ça dans mon flux. dans mon flux de recommandations, parce que bah voilà, c'est une émission d'une demi-heure d'interview, un peu de jeu aussi, un peu rigolol. Bref, c'est un peu un late show.
Style les jeux débiles de Jimmy Fallon ou.
Oui, voilà, c'est-à-dire que par exemple, la première émission, ils ont fait de la boxe à l'aveugle.
Wow.
Ah oui, on est dans le high concept.
Gros budget.
gros budget. En plus, voilà, le plateau, évidemment, il est assez minuscule. Il y a un public de 30 personnes. Mais ouais. C'est fait comme une prod TV.
J'ai vu passer les annonces dans les divers mails que je reçois pour proposer d'aller visiter les émissions de télévision. J'ai vu l'annonce passer pour aller voir le QG. Alors j'ai fait non, non merci.
Merci d'arrêter d'envoyer ce genre de mail.
Oui, s'il y a des trucs plus intéressants, mais ça c'est les moyens. Avec quand même en argument le plus, imaginez si Guillaume Play pouvait balancer ton Instagram à l'émission, comme ça t'aurais tout plein de nouveaux followers.
Alors, oui, c'est-à-dire oui, il fait ça, oui, enfin oui.
Super.
C'est en effet essayer de jouer comme ça sur vous êtes notre public, vous êtes nos fans, donc on va vous faire on va vous faire profiter et vous donner de l'exposition aussi, etc. Donc il y a, par exemple, il prend des questions du public, ce genre de choses. C'est assez chill, mais voilà, ça reste une petite.
Ça reste les petits studios de Webedia du stream. Hein.
Oui, parce que voilà, donc c'est une émission produite par Webedia, justement. Donc ils tentent un peu de capitaliser là-dessus. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à mettre de la pub sur la vidéo YouTube. Je pense que j'en ai eu 4 sur toute l'émission, sur une demi-heure. C'est pas mal. Donc voilà, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, mais voilà, ça reste quand même, on sent encore qu'ils doivent encore s'améliorer sur quelques mois techniques, et notamment sur le fait que c'est pas super dynamique comme animation, même si c'est une demi-heure, c'est assez ramassé, ça reste une émission d'interview, donc il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en place. Voilà, je sais pas si s'il y aura d'autres émissions du genre qui vont arriver sur YouTube. Toi, tu penses que c'est un concept qui peut tenir la distance, ou plutôt, non, justement, t'es sur YouTube,
alors,
pour profiter d'autres choses, mais pas forcément.
Qu'on ait du contenu linéaire sur YouTube, ça va arriver de plus en plus. Ça, c'est incontestable. Je pense que ce que fait Webedia, ils ont raison d'investir dans ce genre de choses, parce que le contenu linéaire, ça va arriver de plus en plus sur YouTube, et c'est un moyen de consommation de télévision, entre guillemets, de plus en plus important. Donc, qu'ils essaient de prendre le lead sur le sujet, ça me semble intelligent. Qui est déjà de plus en plus fait aux États-Unis. Par contre, il faut investir un peu plus. Enfin, investir un peu plus, pas forcément en termes financiers, mais au moins en termes de concept et d'animateur. Parce que là,
voilà,
on sent
ça.
qu'on est allé fouiller, encore une fois, dans les cartons de. Alors, qu'est-ce qu'on a comme talent chez Webedia? Qu'est-ce qu'on a comme invité un peu cheapos? Et on fait une émission de 30 minutes. Un peu con. L'idée, c'est quand même que d'essayer de ramasser un maximum de monde qui va aller voir ton émission pour maximiser ton revenu pub. Et à moins que tu ailles vraiment faire une émission en mode on va faire du placement de produits dégueulasses parce qu'on est sur YouTube et donc on a le droit. Vu que c'est pas les mêmes réglementations qu'à la télévision. Il semble être le cas parce que comme déjà parfois au stream, il y a du placement de produits dégueulasses. Hein, désolé mes amis qui nous écoutent, mais... Tout le studio est en rouge avec du Coca-Cola partout et des verres Coca-Cola. Bon, je pense que ce n'est pas très discret, hein. Mais c'est pas le but.
Ça se voit un peu.
C'est pas le but, hein. On est d'accord, mais ça se voit un peu. Après, c'est toute une question de la cible que tu vises. Mais dans ce cas-là, peut-être oui, en effet, on n'est pas forcément la cible. Donc, compliqué à juger.
Parce que clairement, pour le moment, les nouveaux concepts, des choses qui marchent, etc., ça vient de youtubeurs qui ne cherchent pas justement à faire des émissions. Moi, je pense par exemple à ce que fait McFly et ce que font McFly et Carlito. C'est clairement, ça pourrait être des petites émissions, mais c'est des vidéos YouTube d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, mais qui ont des petits concepts très cons, pas forcément originaux. Je dis pas que c'est forcément original,
oui,
mais
en même temps, c'est pas
clairement, on est dans la recette YouTube, quoi. Alors que là, avec le QG, là, je suis plus sur une recette télé. Qu'on a essayé de mettre un peu à la sauce YouTube, mais pas trop quand même. Je sais pas si, éventuellement même, ils pourraient revendre cette prod à une chaîne de la TNT ou une chaîne du satellite, éventuellement. Mais
Sur ESA peut-être, s'il y a un créneau qui traîne.
Bah ouais, à la limite. Mais donc voilà, si vous voulez voir donc le QG sur YouTube avec Guillaume Play et Jimmy Labeu, là pour le moment il y a déjà eu deux numéros.
C'est sur quelle chaîne ? C'est sur la chaîne de Guillaume Play ? C'est sur...
Il les diffuse tous les deux sur leur chaîne.
C'est-à-dire ?
Donc tant Jimmy Labeu que Guillaume Play ont diffusé l'émission.
Ah d'accord, donc c'est l'invité le diffuse sur sa chaîne et ah oui c'est malin, c'est très malin en effet.
Mais les deux sont animateurs, Jimmy Labeu et Guillaume Play.
Ah non mais je croyais qu'il était juste un invité en
non,
fait.
Non, ils sont tous les deux animateurs en fait et ils reçoivent à chaque fois.
Okay.
La première invitée c'était Camille Lelouch et puis ils ont eu Franck Gastambide, si je me souviens bien. Donc voilà.
Voilà,
il faut essayer de trouver des gens.
C'est les gars qui veulent pas venir, qui veulent pas venir dans les jeux de l'après-midi de France 2 quand même. Là, on en est là.
Oui,
hein.
Voilà. Donc voilà. Moi, je suis pas très fan, mais maintenant, je suis pas forcément la cible non plus. On va revenir à la bonne vieille télévision, puisque une petite information qu'on a eue de dernière minute.
C'est
tombé hier. C'est France Télévisions qui va lancer un jeu dérivé de Fort Boyard.
Alors, jeu dérivé, c'est plus dans le lore, hein.
Voilà. Ça fait, c'est 30 ans après les débuts de Fort Boyard. Donc, ALP va réaliser une émission spécifique autour du père Fourat et de son passé. C'est une information du Parisien. C'est la prod qui a imaginé que le père Fourat était, avant Fort Boyard, un ancien directeur de parc d'attractions laissé à l'abandon depuis son départ. Et donc, simplement, on va faire un Fort Boyard, mais dans un parc d'attractions désaffecté.
Ce qui permet d'enlever une contrainte de Fort Boyard, ce sont la taille des cellules.
Oui,
tu peux faire des épreuves en extérieur, tu peux en faire à Fort Boyard, mais tu peux en faire des milliards. Là,
oui,
dans un parc
que,
d'attractions ouvert, tu peux très facilement faire des trucs assez fun et qui peuvent être un peu plus spectaculaires et vraiment à l'air libre.
Mm-hmm. Donc, normalement, l'émission sera tournée dans un vieux parc d'attractions en région parisienne. J'avoue que... Ils n'ont pas donné le nom, j'avoue.
Je pense qu'ils n'ont volontairement pas donné de nom pour ne pas donner trop d'informations, parce qu'il y a des parcs d'attractions abandonnés en région parisienne, t'en as pas des milliards.
Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je m'étonnais de
J'ai essayé de rechercher rapidement, t'as Mirapolis, qui avait été un gros projet dans les années 80 en région parisienne, et qui avait été abandonné suite à l'arrivée de Disney, parce que, basiquement, le parc était surdimensionné et ne réussissait pas assez pour brasser assez d'argent.
Mm-hmm.
Mais, quand on voit les vidéos d'Urbex de personnes qui passent dans les vestiges du parc, il reste plus grand chose. Donc, ce serait pas forcément le meilleur endroit. Donc après, des endroits comme ça, il va pas y avoir des milliards. Donc, je pense que la production doit volontairement rester un peu floue.
Un peu vague.
Pour éviter que des gens aillent fouiner un peu. Et qu'entre-temps, ils puissent sécuriser le parc et pouvoir l'adapter le temps que les tournages commencent.
Mmh.
Contrairement à Fort Boyard, qui vraiment est bien protégé et un endroit qui est assez... pas trop facile d'accès pour le commandeur.
Oui, c'est plus compliqué d'accéder à Fort Boyard, je pense que...
Enfin, tu peux louer un Zodiac, mais je pense qu'il y a quand même une...
Ça se voit un peu. Hein.
Ça se voit un peu, en effet. Et deux, je pense qu'il y a quand même une société de sécurité à l'année sur le fort.
Je pense aussi. Donc les premiers tournages sont prévus pour l'automne. Maintenant, ils n'ont pas annoncé encore de diffusion, mais j'imagine que...
La logique voudrait l'hiver, parce qu'au final, là, ils vont commencer à tourner Fort Boyard pour les diffusions cet été.
Mm-hmm.
Donc, s'ils tournent ça en automne, ça pourrait faire une espèce de compagnon un peu pour l'hiver, pour les périodes des fêtes, pour avoir du gros divertissement à succès sur France 2 pendant les fêtes, ou peut-être pour le distiller un peu durant l'année en attendant le retour de Fort Boyard pendant la saison estivale.
Non, ils ont
eu envie d'investir parce que Fort Boyard continue à marcher très bien après tous les changements qu'ils ont fait.
C'est
du 3 millions.
Dingue, hein.
En été, c'est bien 3 millions, hein, samedi, il faut le dire. Ça se rediffuse bien sur France 4, ça marche très bien par rapport au show de TF1 le samedi soir. Pourquoi pas continuer sur ça, parce que de toute façon, les créneaux de divertissement sur la prochaine saison, vu que Sébastien a été mis à la porte, il va avoir des cases à remplir, pourquoi pas mettre un nouveau jeu.
Mm-hmm. Et surtout ce genre de jeu d'aventure familial, c'est vraiment l'idéal, quoi.
C'est l'idéal et je pense que ça va pas coûter tant que ça au final à France Télé. Vraiment, derniers grands échecs, sur France 3, Mission Millennium, par exemple, ou sur France 2, il y a beaucoup plus longtemps, si vous vous en souvenez, vous avez de la chance, c'était Les Forges du désert avec Reichmann, qui avait été produit comme une grande production de luxe, avec tout un riad qui avait été loué, des décors qui avaient été construits en plein désert, et malheureusement, pour une seule et unique saison, qui n'avait pas fait un grand succès. Autant là, un parc d'attractions désaffecté, pense pas que ça demandera des investissements lourds à France Télévisions et à Adventure Line pour construire le truc, en sachant que ce sera beaucoup plus un concept qui sera assez facile à revendre à l'international. Donc,
oui, c'est ça.
C'est un bon plan. C'est plus bon, que le format million dollar mile qu'ils ont acheté avec des Yamazé, des passionnés de. Comment dire, d'escalade urbaine, parce que j'allais pas dire Yamakasi, c'est un peu, un peu dégradant comme terme, qui déjà ne fonctionne pas aux États-Unis, donc je pense que les gars de France 2 doivent être en train de se dire on n'a peut-être pas fait un bon investissement. Non, non.
Oui, non, je pense aussi.
Je pense aussi.
Y a pas eu de suivi hein, par rapport justement à cette émission. Hein.
Bah pour le moment, c'est dans les tuyaux. Bah, le temps qu'ils avaient acheté le concept, le temps après qu'ils veuillent adapter le truc. Ça va prendre un peu de temps, le temps qu'ils trouvent l'emplacement pour le faire, qu'ils fassent les castings, les émissions, etc. Je pense qu'ils vont peut-être ralentir un peu le pas, parce que c'était déjà pas ouf sur le papier. Vu comment ça ne marche pas, ça risque de rester sur le papier.
On va encore plus réfléchir.
Oui, ils vont avoir réfléchi longtemps, à mon avis, à France Télé, oui.
Parfait, merci beaucoup pour ce petit suivi. On va passer juste après cette petite pause aux questions des auditeurs et à nos recommandations. On passe tout de suite au courrier des auditeurs et des auditrices. Comme lors de chaque émission, nous tentons de répondre à vos questions que vous nous posez par email à tvnr@radiokawa.com ou sur le compte Twitter de l'émission @tvnrshow. On commence tout de suite avec une question de Toto53 sur Twitter. Les très bons résultats de France Inter vous impressionnent ou vous surprennent-ils? Est-ce vraiment le résultat d'un très bon travail de Madame Bloche ou un alignement d'étoiles? Alors, les très bons résultats de France Inter ne me surprennent pas forcément du fait que c'est en effet un travail depuis plusieurs années pour vraiment faire monter, je veux dire, certaines voix. Que ce soit par exemple avec Boomerang, l'Instant M, avec Charlene Vandenacker, avec Popopop, ouais, voilà, avec Fabienne Sintès qui a repris le téléphone sonne, etc. Je pense franchement qu'il y a une vraie ligne directrice sur toute la journée. France Inter, il y a vraiment pas de souci. Tu sais que c'est du France Inter toute la journée. Je sais pas, il y a vraiment cette ligne qui reste pour moi et qui fait que c'est assez logique que pour une radio, cette radio généraliste continue à monter parce qu'elle propose une grille qui a quand même été renouvelée il y a peu de temps, je vais dire. Il y a quand même 4-5 ans que ça se construit.
C'est pas tant que ça, au final, pour une grille radio.
Et donc, finalement, au fil du temps, ils ont tenté de renouveler. Et là, maintenant, c'est les fruits de ce travail qui sont récoltés. Du moins, c'est mon avis, je sais pas de ton côté, Joachim.
Ah oui, totalement. Clairement, ils ont fait un vrai travail depuis quelques années pour vraiment construire la grille, pour mettre toutes les... un peu de... aussi bien de l'impertinence que de la qualité journalistique à tout moment de la journée. Et c'est ça qui marche. Ah, forcément, l'actualité aide grandement au succès d'Inter sur sa dernière vague, mais il récolte vraiment les fruits d'un travail de quelques années. Donc ça, on peut pas dire que ce n'est pas justifié.
Et il nous posait également comme question, Toto53, en parallèle, faut-il tout jeter à Europe 1 on en avait déjà un peu parlé donc tout à l'heure.
J'ai essayé de réfléchir, mais si on prend la question à l'inverse, est-ce qu'il faut garder quelque chose à Europe 1?
Certes.
C'est compliqué, c'est très compliqué. Essaye de me citer quelque chose qui est bien à Europe 1
qui marche. On de la raconte éventuellement. Mais c'est quelque chose qui fonctionne depuis des années.
Si c'est quelque chose que tu mettrais sur RMC, que tu mettrais sur Inter, ça peut fonctionner aussi. Sur RTL, ça fonctionnerait. C'est pas si c'est pas quelque chose de spécial dans la grille d'Europe.
Non, j'ai du mal en effet aussi à trouver une émission, quelque chose qui...
on en parlait de Mathieu Noël, où Mathieu Noël fait du très bon taf, mais après, le reste, c'est pas le 5-7, c'est pas un moment critique pour la grille d'Europe 1. La matinale, je suis désolé, Nikos ne peut pas faire le sauveur et est moyen, malheureusement. À 10h, je sais pas ce qu'il y a, c'est à 10h sur Europe 1.
C'est pas Wendy Bouchard?
Ah si. Donc voilà. Le midi, bah, c'est le bloc info, donc ouais, il n'y a rien, à pas grand-chose à dire. L'après-midi, bah, c'est catastrophique, hein, on a déjà parlé un petit million de fois entre les divers changements, entre Boccolini qui a été mise par la petite porte.
Bah là, maintenant, c'est Carl Zero qu'ils ont mis.
Carl Zero, qui est sympa, mais qui n'arrive pas, qui arrive pas à sauver une sinistrée, hein, c'est pas le soir des masses.
Hein. À tel point qu'ils ont mis maintenant de l'info de 17 à 20 heures. Quoi.
Voilà, et c'est un bloc info de 17 à 20 heures. Donc, c'est bah, reste plus grand chose.
Mm-hmm.
Indirectement, bah, il faut tout jeter à Europe 1 parce qu'il n'y a pas grand chose à sauver. C'est déjà, il n'y a pas grand chose à sauver au final. C'est pas parce qu'il faut pas brûler la grille, mais bah, il n'y a plus grand chose qui ne va.
Mm-hmm. On va passer tout de suite à une autre question d'Over and Over Again via Twitter. Je me pose une question concernant Magellan, la plateforme de podcast de Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France. J'ai l'impression qu'il essaye de réinventer l'eau chaude avec son projet. Je ne vois pas en quoi c'est différent et j'ai raison.
Bah si, parce que hein, ce sera payant.
Voilà.
Bonjour.
Oui, Magellan, donc ce fameux Netflix du podcast. Je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans cet épisode. Je vous invite aussi à écouter, ça c'est pour les abonnés Patreon de Radio Kawa, le bureau des patrons qu'on fait avec Yann, donc avec Inks, avec Fox et avec Valocar, où on parle aussi souvent de ce concept de Magellan et d'autres structures de podcast payantes.
Plus simplement, vous pouvez suivre le, si vous ne faites pas encore, le fil Twitter de notre vénéré patron Inks, qui en parle régulièrement de la situation dans le podcast dans le monde.
Voilà, il fait souvent des petits trades à ce sujet-là. Donc oui, non, Magellan, je vois vraiment pas qu'est-ce que... À part le fait qu'en effet, il veut offrir une option payante avec des contenus exclusifs, etc. Voilà, je vois pas ce que ça va apporter, je vois pas pourquoi j'irais sur ce genre de plateforme, alors que regrouper des podcasts sur une seule interface, je suis désolé, mais Apple Podcast le fait déjà, l'application que j'ai, Pocket Cast, le fait déjà,
Le truc, c'est que malheureusement, comme c'est en train que ça commence à se faire un peu progressivement en Angleterre, où la BBC retire tous ses podcasts de toutes les applications pour les laisser sur leur propre application et sur leur propre site web... Ça va peut-être pousser justement des producteurs à se dire bon bah on va prendre le pognon et on va faire en sorte que notre contenu ne peut être plus écouté que par une poignée de nantis qui payent un abonnement sur ce Netflix du podcast.
Ouais, malheureusement.
Donc, ça va peut-être changer ça.
Malheureusement, ouais. Parce que pour le moment, en effet, on a cette liberté avec les podcasts de pouvoir les écouter partout, de les télécharger partout. Maintenant, est-ce que ça va changer? Je pensais que ça allait peut-être changer justement aussi avec l'arrivée de Spotify. Pour le moment, ça reste encore les podcasts qui se mettent dessus, mais il n'y a pas encore d'accord exclusif pour que Spotify diffuse certains podcasts. Mais voilà.
Contrairement à Deezer qui a du contenu original.
Qui avait lancé des podcasts en France justement, qui étaient exclusifs à Deezer. Voilà, mais pour Magellan, pour le moment, donc tout ce qu'il y a, c'est un site, un mail, même un formulaire pour proposer son émission. Donc si vous voulez prendre l'argent de Mathieu Gallet, je vous en prie.
Si vous faites ça consciemment pour voler son argent, faites-le, n'hésitez pas. Hein. Prenez l'argent.
Ils avaient annoncé le lancement au printemps. Bah, on attend toujours. En soi, le printemps se termine le 20 juin.
Le printemps, c'est large.
Donc ça peut. On a encore 2 mois.
Il suffit de vous dire oui, mais on a eu des petits contraintes techniques. Puis vous comprenez, le lancement à la rentrée, ça sera mieux.
Bon voilà, je pense que on aura peut-être quelques nouvelles, mais. Je ne pense pas que ça va révolutionner le monde du podcast.
Non.
Monsieur Yanou, qui nous demande via Twitter, Salto, c'est pour quand un résumé de la future plateforme qui va tuer Netflix? Nous met-il avec un smile et mort de rire. Est-ce qu'il y a des chaînes européennes qui sont engagées? Quels sont les prix? Et quid des fonctions replay? Alors Salto, c'est vrai qu'on en a aussi beaucoup parlé durant le début de la saison. Donc le dossier est actuellement entre les mains de l'autorité de la concurrence, sur demande à la Commission européenne. Qui doivent voir si il n'y a pas de problème de concurrence avec cette plateforme multichaîne. Donc je vous rappelle, c'est France Télévisions, TF1 et M6 qui veulent faire leur propre plateforme de VOD, SVOD, direct, etc. Parce que normalement, la plateforme devrait permettre donc de voir toutes les chaînes des groupes en direct et en replay, et d'offrir en plus un service de vidéo à la demande par abonnement avec des contenus exclusifs. Le prix, normalement, ça doit être autour de 7 euros. C'était en tout cas ce qui était annoncé. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas beaucoup plus de nouvelles, notamment par rapport à d'autres partenaires, parce que normalement, Salto devrait être ouvert à d'autres partenaires européens. On avait annoncé la RAI, la BBC et ZDF notamment, qui pourraient être intéressés par le fait de créer cette plateforme au niveau européen. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de news à ce niveau-là. Donc voilà, après je ne sais pas si y aura des nouvelles bientôt, si l'autorité de la concurrence...
Ça va traîner à mon avis, ça va pas trop long. Même que... si vraiment France Télévisions y croit vraiment, et les partenaires français y croient quand même pas mal, je pense pas qu'ils veulent, enterrer le projet, c'est pas le sujet.
Non,
c'est,
ça,
c'est
là, juste là, que ça, ça, va être, ce, à ce niveau-là,
là, ça va repartir dans un gros labyrinthe juridique, et bah ça va pas se résoudre en 6 mois ou un an.
C'est surtout ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'annonces très rapidement, mais voilà.
Pour quelque chose qui n'arrivera pas avant un petit moment.
Malheureusement. Donc voilà pour Salto. Donc, il faudra encore attendre un petit peu avant que la plateforme tue Netflix. Zgarin Shah, je pense que je l'ai dit plus ou moins bien. Avec deux Z, pardon. Qui nous demande via Twitter, pensez-vous que Game of Thrones est la GOAT des séries? Alors, la GOAT, pour ceux qui ne sont pas du monde sportif, donc c'est un peu la meilleure série de tous les temps, un peu comme la GOAT.
All time.
Voilà, donc par exemple, en football, ben, qui est la GOAT entre Messi et Ronaldo, par exemple. Alors, j'avoue que Game of Thrones, j'ai regardé la première saison, je me suis ennuyé comme pas possible, et donc je n'ai pas regardé la suite. Donc du coup, je ne sais pas du tout... si ça peut être considéré comme la GOAT des séries, c'est-à-dire que oui, il y a une attente assez dingue, il y a le fait que HBO ait mis des moyens assez incroyables, il y a une production qui est clairement au-dessus de bon nombre de séries, mais après, est-ce que c'est forcément la meilleure série de tous les temps?
Je vais être encore plus simple, j'en ai rien à branler de Game of Thrones. Je vais pas aller jusqu'au point où je vais dire vous me faites chier avec Game of Thrones parce que je suis sûr que vous y trouvez des qualités, que c'est une, de toute façon c'est une série qui a des qualités de production qui sont incroyables. Ça, on peut rien dire, mais j'en ai rien à foutre. Donc non, pour moi c'est pas la meilleure série du monde et c'est compliqué d'avoir un avis sur quelque chose qui est d'aussi subjectif qu'une série télévisée au final.
Non, donc voilà, on ne pourra pas t'aider à ce niveau-là, puisqu'on n'est pas du tout des téléspectateurs de Game of Thrones. Mais voilà, clairement, l'attente est là, profitez bien de cette dernière saison, mais pour nous, ça ne va pas changer nos vies. Par contre, on a d'autres recommandations à vous faire, et Joachim, donc de ton côté, qu'est-ce que tu recommandes à nos chers auditeurs?
Nous parlions de sport il n'y a même pas 30 secondes, et ça tombe très bien puisque je vais continuer de vous parler de sport, avec le documentaire, ou plutôt la série documentaire de Netflix sur la Formule 1, Formula 1, pilote de leur destin pour le titre français. Les équipes de Netflix ont réussi à faire quelque chose d'assez incroyable. Bon, déjà, le changement de management de la Formule 1 depuis une année ou deux essaye de vraiment rendre le sport un peu plus attractif, parce qu'après quelques années vraiment ronronnantes... On s'emmerde à regarder, même malheureusement, on s'emmerde toujours à regarder la Formule 1 cette saison-là. C'est... Faudrait peut-être qu'ils se bougent le cul à ce niveau-là, mais bon, ça va être très compliqué, surtout s'ils veulent rendre le sport plus sécuritaire. Donc revenons-en, les équipes de Netflix ont été autorisées à filmer les paddocks pendant une saison entière pour en faire une série de documentaires, et c'est assez impressionnant, ils réussissent à rendre le sport un peu plus attractif en vraiment mettant des visages humains, en faisant voir qu'à quel point les gars triment et qu'il y a vraiment des enjeux derrière, que tout peut basculer à un moment ou à un autre. Et en réussissant à faire pas mal d'humour aussi à côté, il y a un immense running gag sur le fait que Grosjean, si vous intéressez un peu à la Formule 1, Romain Grosjean, le pilote français engagé en Formule 1, et bon, a quand même un talent, mais reste une chèvre par moment en fonçant dans le mur ou en écrasant un de ses collègues de façon indirecte.
Malheureusement.
Et que tout le paddock en rit littéralement du fait que Grosjean va se planter au début du premier virage lors du démarrage de la course, ou que Grosjean va finir par s'écraser sur une faute grossière, et que tout le monde ne s'en surprend même pas.
C'est le talent français, c'est... madame.
Voilà, le talent français, clairement. C'est un talent libellisé Fédération française de la loose permanentement bravi. Hein. C'est vrai, Grosjean, il n'y a rien à dire. Je vous le conseille, même si le sport auto n'est pas forcément votre cam, ce qui est compréhensible, c'est pas forcément quelque chose qui est spécialement attirant à la base. Ils ont vraiment fait un travail pour rendre le paddock humain et pour montrer les vrais enjeux d'une saison de Formule 1, et c'est vraiment passionnant à regarder.
Parfait, merci beaucoup Joachim. De mon côté, je vous propose deux programmes en anglais. Je vous propose le podcast Conan Needs a Friend, qui est réalisé par Conan O'Brien, enfin qui est présenté par Conan O'Brien, donc présentateur de Late Show, humoriste, auteur, qui a déjà fait énormément d'émissions de Late Show, ça fait bien 30 ans qu'il fait ça. Et donc là, il a lancé son podcast depuis, je crois que ça fait 3 mois, plus ou moins, où à chaque fois, il reçoit un invité. Et c'est pas des invités de pacotille, puisqu'on a déjà eu du Michel Obama, on a eu du Patton Oswalt, qui est un humoriste très connu aux États-Unis, on a eu Jeff Goldblum récemment. Donc voilà, c'est à chaque fois, je veux dire, plus ou moins une quarantaine de minutes d'interview comme ça, mais pas vraiment une interview, je veux dire, basique, entre guillemets, mais on sent vraiment qu'il y a un lien de complicité entre les deux, et donc ça donne vraiment des podcasts très agréables à écouter, et en plus Conan O'Brien fait toujours des vannes comme il aime bien, même ses pubs, c'est-à-dire que bah, y a des pubs dans le podcast, c'est lui qui les fait, et il les fait, mais magnifiquement. Il arrive à faire des mises en scène absolument géniales pour rendre ses pubs un peu plus attractives. Il fait ça avec son équipe de prod. Il s'en moque aussi de temps en temps. Donc c'est toujours rigolo à entendre. Et également, toujours par Conan O'Brien, puisque je suis fan, je vous propose les Conan Without Borders sur Netflix. Donc c'est des émissions qui fait de toute façon pour TBS aux États-Unis, qui sont arrivés sur Netflix il y a quelques semaines également. Donc c'est quand il part dans un pays, donc par exemple le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, etc., pour découvrir ce pays pendant 45 minutes, toujours avec son style très particulier, évidemment. Et là, dernièrement, il a également été en Australie. Ce numéro n'est pas encore sur Netflix, il arrivera à mon avis dans quelques mois, mais il est déjà sur YouTube avec plusieurs sketchs si vous regardez sur la chaîne YouTube Team Coco pour Conan O'Brien. Donc voilà, je vous conseille vraiment notamment les épisodes où il va dans la forêt australienne et il découvre les araignées qui peuvent le tuer. Voilà, c'est franchement du très 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 bon. Et évidemment, il est déguisé en Crocodile Dundee, parce que pourquoi pas.
Et si avec ça vous n'avez pas assez de Conan O'Brien, il a aussi lancé son site d'archives récemment, les Conan Tapes, donc où il regroupe un peu les plus grands moments de toutes ces années passées à faire du Late Show, surtout sur NBC forcément. Et c'est vraiment vraiment du gold, clairement. Il a vraiment fait un travail de curation, c'est vraiment le meilleur du meilleur.
Oui,
vous pouvez pas vous louper.
Je disais 30 ans, et en fait, oui, ça fait 25 ans, puisqu'il a lancé justement ce site pour ses 25 ans de télé, de Late Show. Et en plus, c'est disponible sans VPN, même depuis la France ou depuis la Belgique. Vous pouvez profiter de toutes les vidéos.
Toujours, ça n'a jamais été géobloqué.
Et ça, c'est dingue avec lui, voilà. De donner comme ça tout son talent, de nous le jeter à notre visage, mais ça nous fait plaisir. Voilà qui termine ce 117e numéro de TV Nerd. Merci beaucoup Joachim pour ta présence.
Merci à toi Greg pour la préparation de cette émission
et
la présentation.
Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. TV Nerd est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Continuez à nous soutenir et continuez à soutenir toutes les autres émissions Radio Kawa sur patreon.com/radiokawa. Vous pourrez ainsi écouter des émissions inédites, des extraits inédits. Et vous avez encore plein d'autres cadeaux, et cela nous permet à nous d'organiser des émissions publiques, d'acheter du matériel de qualité.
N'oubliez
pour vous
pas aussi d'aller écouter Nawak en podcast, la première émission qui a été diffusée ce vendredi avec JBX en invité.
Oui, en plus, donc cette incroyable émission en direct qui sera proposée un vendredi toutes les deux semaines en direct à 21h. C'est une nouvelle émission qui est notamment présentée par Yann, qui sera présentée parfois par Fox, parfois par moi. Voilà, ce sera une émission...
Parfois par des gens qu'on a pris dans la rue aussi.
Il y a plein de choses, et comme le titre de l'émission le dit, c'est Nawak, donc c'est n'importe quoi. Mais promis, cela vous fera du bien à vos oreilles. Un commentaire sur la page iTunes de TVNR nous aide à faire découvrir l'émission à plus d'auditrices et d'auditeurs, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit 5 étoiles. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de TVNR et 24h sur 24 pour le replay en streaming, téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa, radiokawa.com. Merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt.
À la prochaine.